λέμε πόσο μας υποστηρίζει ο κόσμος, να πούμε σε αυτό που κάνουμε.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, c'est un pays où la malnutrition a refait son apparition. La Grèce est membre de l'Union européenne, mais vous le savez, la crise économique a durement touché ce pays, tellement endetté qu'il est au bord de la faillite. Son agriculture, qui représente à peine 3% du produit intérieur brut, est également au bord de l'implosion. Il est urgent de la réformer. Oui, mais comment? Les caisses sont vides et le parti au pouvoir, Syriza, dépend quasiment uniquement de la PAC, la politique agricole commune, qu'il n'hésitait pourtant pas à vilipender. L'agriculture biologique n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de pesticides. Les exportations sont au plus mal. Encore une fois, ce sont les citoyens qui montrent l'exemple et proposent une nouvelle approche raisonnée pour leur pays, pour le futur et pour manger, tout simplement. L'agriculture en Grèce, entre crise, PAC et conscience citoyenne, c'est un reportage d'Igor Strauss.
More than 60% of the population living in two cities now, yeah?
Aujourd'hui en Grèce, plus de 60% de la population vit dans les deux principales villes du pays. Mais il y a encore 50 ans, cette population vivait à la campagne. Tout le monde cultivait la terre. Puis les gens sont partis, ils ont abandonné leur village. Ceux qui restaient étaient les enfants les moins intelligents. Les parents se disaient, bon, lui, il n'est pas très brillant, il n'ira jamais à l'université, ne trouvera pas de bon boulot, donc il va s'occuper de la ferme. Et ça, ça a entraîné une dépréciation, une dévaluation de l'image d'agriculteur dans la société grecque. Et ça a aussi entraîné une dévaluation du travail lui-même. L'utilisation excessive des pesticides très courante en Grèce en est la parfaite illustration. Et de l'autre côté, on a les consommateurs qui ne s'intéressent qu'au prix et pas du tout à ce qu'ils mangent. On est soi-disant dans le pays du soleil, mais 65% des citrons consommés ici viennent d'Asie, d'Afrique et de Turquie, parce qu'on a abandonné la culture du citron en Grèce. Il y a 20 ans, c'était une énorme industrie et on en exportait des centaines de tonnes chaque année. Et puis ça a été totalement abandonné. Mais les consommateurs, ils se moquent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est manger des citrons en été. Mais en été, nos variétés de citronniers ne donnent pas de fruits. Et donc, on voit cette crise alimentaire arriver dans toute l'Europe à cause de notre dépendance aux supermarchés qui s'approvisionnent dans un ou deux pays. Mais s'il y a une catastrophe naturelle ou un soulèvement populaire dans un de ces pays, que va-t-il se passer? Les supermarchés seront vides en une semaine. Et qu'est-ce qui se passera alors dans une grande ville comme Athènes, avec 5,5 millions d'habitants?
Je m'appelle Adonis.
J'ai 35 ans et je suis agriculteur biologique. J'ai commencé un peu avant la crise. Quand j'ai voulu faire ce métier, j'ai rencontré pas mal d'agriculteurs, dont Vagelis, qui a été agriculteur toute sa vie. Il a toujours gagné sa vie correctement, sauf ces dernières années qui ont été très difficiles à cause du changement climatique et de la hausse des prix. Donc il a voulu se servir de ce qui existait, sa ferme, ses terres, pour montrer aux gens de la ville qui n'ont pas d'argent qu'on pouvait vivre en retournant à la campagne, en exploitant des terres qui ont été abandonnées. Et pour cela, c'est très facile. Pas besoin d'argent. Il faut juste y croire et rencontrer les bonnes personnes et partager leur expérience.
Donc vous parliez de la nécessité de repeupler les campagnes, de reprendre de vieilles exploitations abandonnées. Est-ce que c'est un mouvement qui est vraiment important ici en Grèce?
Eh bien, on en entend beaucoup parler, mais peu de gens le font réellement. Il y a eu un sondage l'année dernière qui révélait qu'il y avait plus d'un million et demi de jeunes qui étaient prêts à retourner vivre à la campagne. Mais il y a beaucoup de peur et beaucoup d'insécurité. C'est un travail difficile, le métier d'agriculteur. La semaine dernière encore, il y a un agriculteur biologique qui s'est suicidé dans un village à côté de chez moi. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Et selon moi, les gens ne sont pas prêts à travailler dur. Les gens veulent être professeurs avant d'être élèves.
Mais alors comment encourager des jeunes agriculteurs à s'installer et comment faire pour que la production biologique soit de plus en plus importante ici?
Ce que je crois et que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut qu'ils mangent bio. Tout le monde ne peut pas être activiste. C'est un engagement difficile. Et travailler la terre, c'est un engagement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre un mois de vacances l'été parce que c'est le moment où vous produisez votre nourriture pour l'hiver. Et peu de gens sont prêts à faire ce sacrifice et à vivre sans revenu fixe. À Athènes, vous pouvez survivre en gagnant 300 ou 400 euros par mois et en vivant chez vos parents, bien sûr. Parce que c'est ce qui se passe pour la plupart des jeunes entre 25 et 35 ans. Ils vivent chez leurs parents et ils essaient de se débrouiller avec les 200, 300, 400 euros qu'ils gagnent. Mais ces 400 euros, vous n'êtes pas sûr de les gagner à la ferme, surtout avec l'agriculture biologique. Parce que quand vous avez un problème, un gros problème, vous n'avez pas les mêmes armes pour y répondre qu'un agriculteur traditionnel qui, lui, prend son tracteur et vaporise ses champs. Prenez le raisin, par exemple. Les agriculteurs traditionnels aspergent les vignes avec 4 hormones avant la récolte. Un agriculteur bio doit faire ce qu'on appelle araki, c'est-à-dire c'est une petite incision sur chaque grappe pour qu'une partie du jus coule, et c'est ce qui permet ensuite d'avoir de plus grosses grappes de raisin. Ça, c'est la technique naturelle, sans utilisation d'hormones. Mais il faut qu'on s'occupe de chaque pied de vigne. Il y en a plus de 300, et il faut répéter l'opération 2 fois. Ça prend un temps considérable, alors que lui, l'agriculteur traditionnel, il passe avec son tracteur et en 10 minutes, c'est fini. Et donc, ça crée une sorte de contradiction en Grèce. Il y a dans les médias une vision idyllique, branchée des jeunes qui retournent à la terre. Mais moi, je ne vois pas ce mouvement. Il existe seulement avec ceux qui ont déjà de l'argent.
Aujourd'hui, la Grèce, c'est 11 millions d'habitants et plus de 20% de chômeurs, un chiffre qui dépasse les 50% quand on parle des jeunes de moins de 24 ans. Ils sont donc nombreux à réfléchir à un retour à la terre, mais le défi est de taille. Evangelos Apostolou, ministre suppléant de l'agriculture grecque.
Effectivement, il y a eu des conséquences tragiques pour l'agriculture grecque dans le cadre de la crise. On peut dire que les conséquences néfastes concernent essentiellement la baisse du revenu agricole, mais aussi la diminution des productions liées au marché intérieur grec. Et la priorité du monde agricole en Grèce en ce moment, c'est de mettre l'accent sur la capacité d'embauche de jeunes, puisque c'est la seule domaine dans lequel une large fraction de la jeunesse grecque peut trouver de quoi travailler.
Alors, vous faites référence à ce qu'on appelle le retour à la terre, mais est-ce qu'il n'y a pas certains problèmes liés à ce retour à la terre et comment inciter des jeunes à reprendre les exploitations ?
L'encouragement des jeunes à s'investir dans l'agriculture est une chose qui est réalisable. Il y a une volonté de leur part de progresser dans cette direction-là, de la part des jeunes eux-mêmes. Le gros problème, c'est la deuxième phase. Comment est-ce qu'on va pouvoir les y maintenir dans ces nouvelles exploitations ? Et malheureusement, en l'état, sur 10 jeunes agriculteurs, seul un reste durablement dans son exploitation.
Alors, quelles seraient des mesures très concrètes pour favoriser le maintien de ces jeunes dans des exploitations ?
Alors d'abord, on peut imaginer des mesures permettant à ces jeunes de s'installer via notamment l'aide d'agronomes qui les conseillent, qui les orientent et qui leur permettent de réaliser les investissements qu'il faut. Et la deuxième chose, où l'Union européenne peut jouer un rôle, c'est dans les 3, 4, 5 ans qui suivent l'installation, poursuivre les aides pour leur permettre de ne pas éclater en vol.
Problème de formation, manque d'agronomes, dépendance au budget de l'Union européenne, il y a encore trop d'obstacles pour faire de ce retour à la terre un mouvement de masse. Mais quels sont les problèmes des agriculteurs déjà installés ? Qu'attendent-ils du gouvernement ? Théodoris est agriculteur biologique dans la région Attique.
Είπαμε, οι αγρότες
D'abord, il y a un problème au niveau des agriculteurs qui ne sont pas formés comme il le faudrait. Pourtant, ce sont eux qui cultivent la terre, qui produisent la nourriture. Et le résultat, c'est qu'ils produisent des aliments qui ne sont pas convenables pour la santé et qui sont de très très basse qualité. On parle des agriculteurs là, conventionnels, productivistes, on ne parle pas des agriculteurs biologistes. Et ces agriculteurs conventionnels, ils représentent 97% de la profession. Nous, on n'est que 3% en biologique. Et le deuxième problème, c'est la mise à disposition des produits pour les consommateurs. Et nous, en Grèce, on a toujours eu un État qui favorisait la grande distribution, qui favorisait les intermédiaires, et pas du tout la mise à disposition des produits agricoles sans intermédiaires auprès des consommateurs, ce que nous voudrions.
Alors, Nikos Lapas, vous travaillez pour des groupements d'agriculteurs, vous voulez rajouter un petit mot?
J'ajouterai un autre problème, et qui lui est directement lié à la crise, c'est que depuis quelques années, pour tout producteur, qu'il soit biologique ou qu'il soit traditionnel, il ne peut plus percevoir le moindre prêt de la part des banques. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de liquidité et on ne peut plus faire à partir de là aucun investissement. Et un exemple frappant, c'est par exemple la banque agricole de Grèce, qui était avant étatique, qui était publique et qui a été privatisée dans le cadre de la crise. Depuis qu'elle a été privatisée, elle ne prête plus ou pratiquement plus aux agriculteurs. Il y a deux dimensions à ce problème. Il y en a une, c'est le fait que quand il n'y a plus de banque pour financer l'agriculture, quand on ne peut plus emprunter auprès d'une structure publique parce que l'État n'a plus d'argent, à ce moment-là, on va demander des garanties, par exemple, aux marchands et aux intermédiaires de la grande distribution ou encore à divers types d'entreprises. Ce qui fait qu'on se met sous leur dépendance. Le deuxième problème, c'est que à partir du moment où les agriculteurs ne peuvent plus faire d'emprunt pour acheter des semences ou des engrais qui ont des prix élevés, à ce moment-là, l'agriculteur va investir dans des cultures à très bas prix, ce qui bride complètement les perspectives à long terme de l'agriculture grecque. Et les institutions européennes qui sont en Grèce maintenant depuis des années, qu'on voit défiler en permanence, n'ont jamais parlé que de problèmes financiers. Tant qu'ils ne parleront pas de comment développer véritablement la croissance de l'économie, même les problèmes financiers ne seront jamais réduits.
La Grèce est donc à la croisée des chemins. Son agriculture au bord du précipice n'est pas source de création d'emplois, mais elle doit au moins permettre à chacun de se nourrir. Alors à Athènes, comme ailleurs, les citoyens s'organisent. Direction le quartier anarchiste d'Exarchia, symbole de la lutte antifasciste depuis les années 1946-1949 et la guerre civile entre communistes et forces nationalistes.
Je suis Vassilis.
Je m'appelle Vassilis, j'habite à Athènes et je suis actif surtout sur Exarchia. Donc là, on se trouve sur le parc Navarinou qui a une assez longue histoire. Alors, il y a 6 ans, ce parc était un parking entièrement bétonné. Et à quelques pas d'ici, là où on est passé à l'instant, en 2008, la police a tué un jeune de 15 ans. Et suite donc à cet assassinat, il y a eu des émeutes dans toute la ville d'Athènes. C'est suite à ça qu'on a décidé d'occuper le parking, de le transformer en parc, de planter les plantes qui poussent depuis lors, et ça a donné le parc que vous voyez maintenant.
On va voir le jardin potager, vous nous montrez? Alors, c'est quand même protégé par une grille, donc oui. Là, on voit les tout petits plants, effectivement, qui viennent d'être plantés, donc.
Donc là, ce qu'on voit ici a été planté dimanche dernier dans le cadre de l'anniversaire. Ce sont 3 petites sœurs d'Amérique latine, donc une variété de haricots, du maïs et une variété de courges qu'on a planté ici, non pas pour récolter les légumes, mais pour en garder ensuite les semences. Donc là, vous voyez les oliviers. Cette année, on a une récolte assez généreuse. On a réussi à avoir 2-3 gros sacs d'olives, donc certains de nos copains là essayent de faire de l'huile. On verra bien ce que ça donnera.
Mais alors, ces semences, qu'est-ce que vous comptez en faire et pourquoi développer ce type de semences ?
Dans un premier temps, quand on a créé le parc avec l'Assemblée Générale, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait cultiver des légumes pour qu'ils soient consommés dans des cuisines collectives, pour qu'on les mange nous-mêmes ou qu'on les distribue à des personnes qui en avaient besoin? Et finalement, on s'est dit qu'il valait mieux éviter de faire ça parce que le quartier est quand même relativement pollué par les lacrymogènes à cause des descentes policières et des affrontements qui ont lieu régulièrement. Il valait mieux éviter. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt cultiver des semences qu'ensuite on répartirait aux personnes que ça intéresse, parce qu'en réalité on finit par avoir à l'arrivée beaucoup plus de rendement.
Alors ici on est en plein cœur d'Athènes, vous êtes des citadins, vous n'êtes pas des agriculteurs, donc quelle est la philosophie de ce jardin? Quel message il y a derrière?
Oui, alors c'est vrai, on est au cœur d'Athènes, mais ceci dit, il faut savoir qu'il y a énormément d'agronomes et d'agriculteurs professionnels qui ont participé à l'expérience du parc. Donc en fait, la connaissance elle-même de l'agriculture, elle ne manque pas. On l'a. Par ailleurs, il faut savoir aussi que ces dernières années à Athènes, les cultures un peu d'autosuffisance se sont développées sur les balcons, sur les terrasses. Et donc l'idée était de se regrouper ici, de partager un peu nos connaissances. Le but, c'est moins de produire de la nourriture en soi que de produire la conscience de ce qu'est la nourriture.
Et qu'est-ce que représente la culture sur balcon, j'ai envie de dire? Est-ce que ça c'est vraiment très développé ici à Athènes?
Il est en cours de développement, c'est difficile d'avoir une idée. Sur les immeubles athéniens, si vous regardez du ciel sur un mont, vous vous apercevrez que les Athéniens ont pas mal de fleurs, de plantes sur leur balcon. Ils aiment bien ça. Ces dernières années, on voit qu'il y a de moins en moins de fleurs et de plus en plus de légumes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont trouvé avec ça une solution à leur problème, mais ça veut dire qu'au moins, sur une partie de leur alimentation, ils ont pu produire leurs propres produits.
Mais est-ce que vous pensez qu'avec la crise économique, ce retour à la ferme dans des vraies exploitations, cette agriculture urbaine, peuvent se développer et ont un avenir ?
Θέλοντας να είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να καταφέρουμε να αυτοοργανωθούμε και να φτιάξουμε.
Pour être optimiste, je dirais que j'espère qu'on va réussir d'une part à s'organiser, à former les réseaux dont nous avons besoin, de pouvoir développer y compris la circulation de la connaissance, la circulation des semences. Le gros problème qu'on a ici en Grèce, c'est la mise en commun et la mise en réseau des initiatives. C'est-à-dire qu'il sera vraiment très important, et pour moi c'est ça qui compte dans les temps qui viennent, de réussir à faire en sorte que les personnes qui retournent dans leur village cessent de fonctionner uniquement entre eux sur le plan local, mais que se créent des vrais réseaux dans une île, à l'échelle d'une région, et puis qu'ensuite ces réseaux et ces équipes, une fois constituées, se relient entre elles sur le plan national, pour qu'on arrive à peser véritablement et à vivre véritablement libre. Pour l'instant, on a du mal ici, mais c'est ça qu'on va essayer de faire. Et c'est notre gros défi, c'est la mise en commun, la collectivisation des initiatives.
Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι μέσα σε αυτές τις εποχές που ονομάζονται κρίσεις, που δεν είναι τόσο οικονομική κρίση όσο
dans cette période de crise qu'on appelle la crise économique, mais qui à mon avis est une crise tout autant morale, intellectuelle, culturelle, on se dit ça y est, cette fois c'est l'occasion, cette fois on va réussir à transformer les choses et à obtenir ce qu'on voulait. Mais en réalité, je pense qu'on n'est pas encore parvenu au moment où on pourra véritablement obtenir les transformations qu'on attend. Sans doute faudra-t-il passer par une catastrophe encore plus grave pour qu'on puisse réaliser un peu nos ambitions. Donc pour répondre à ta question, ce que j'ai envie de dire, c'est que le chemin vers la liberté est un chemin long et difficile et qu'on n'y est pas encore parvenu.
Restez sur RFI, de toute façon, vous ne serez pas mieux ailleurs. Suite du reportage sur le malaise de l'agriculture grecque, juste après le flash d'info. À tout de suite.